La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 1er au verset 15. 1 Timothée chapitre 1er verset 15. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Ça, c'est Paul qui parle. Verset 16. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, Paul explique que c'est certain que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Il faut croire en cette réalité-là. Et il parle de son propre cas. Il explique que lui-même, il était le premier des pécheurs parce que lui, il tuait les chrétiens, il maltraitait les chrétiens, il a contribué à ce que les chrétiens soient emprisonnés, soient parfois tués. Mais il dit que il m'a fait miséricorde afin que je serve d'exemple. En quelque sorte, qu'est-ce que Paul veut dire? Si Jésus m'a sauvé, alors il peut sauver n'importe qui. Puisque moi, j'étais un vil pécheur. Pas seulement un pécheur qui fait le mal en allant dans les mauvaises choses que propose ce monde, mais un pécheur qui était en action contre l'Église du Seigneur, contre les croyants de Jésus-Christ. Et Jésus dit, s'il m'a fait miséricorde, il peut aussi te faire miséricorde. Ma prédication, c'est que Jésus-Christ peut sauver le plus grand des pécheurs. Beaucoup de gens ne veulent pas se convertir parce qu'ils se sentent trop mauvais pour être sauvés. Ça, c'est l'une des grandes ruse du diable, l'un des grands mensonges du diable. Beaucoup se sentent trop pécheurs, trop imparfaits, ils sentent en eux trop de faiblesses. Ils se disent, c'est pas la peine de m'engager avec Jésus parce que je risque de retomber et de reculer. Il y en a qui ne réfléchissent même pas comme ça. Ils se disent tout simplement, si Dieu a créé toutes choses, pourquoi suis-je si mauvais? C'est de sa faute. Puisque c'est de sa faute, moi je vais mener ma vie dans le péché. Parce que ce n'est pas moi qui me suis créé, c'est Dieu qui m'a créé. Mais la Bible dit, oui, Dieu a créé l'homme, mais il a créé bon. C'est le diable qui a entraîné l'homme dans le péché. Mais le Seigneur a donné son propre fils, Jésus, afin que n'importe quel pécheur puisse recevoir le pardon et venir à lui. Beaucoup sont découragés parce qu'ils ont l'impression que, en croyant en Jésus, ils vont rater des choses. Et le goût de ces choses est tellement fort dans leur corps, tellement fort dans leurs pensées, tellement fort dans leur âme. Vous savez, il n'y a pas que le corps qui a des mauvaises envies. Il y a aussi l'âme. Il y a des gens qui ne peuvent vivre sans dominer quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne peuvent vivre s'ils ne se mettent pas en colère. La colère leur donne un certain plaisir. Il y a des gens qui ne peuvent vivre si on ne leur dit pas les félicitations. Ils ont besoin de s'entendre être félicités. Ça, ce sont les problèmes de l'âme. Et le problème de l'âme et du corps, l'âme et le corps, c'est ce qu'on appelle la chair. Et la chair peut parfois être un poids tellement grand sur nous qu'on se décourage et on dit, ben, il n'y a pas de salut pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la Bible dit quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi Paul, qui a vécu ce salut, témoigne à nous tous que chacun de nous peut être sauvé. Certains sont aussi chrétiens, mais sont dans des erreurs, sont parfois dans des péchés. Au lieu de se repentir, ils préfèrent dire que leur péché n'est plus un péché. Leur situation n'est plus un péché. Ils ont décidé cela tout seuls et ils préfèrent continuer dans la perdition alors que Jésus peut les sauver. Aujourd'hui, sache-le, Jésus peut te sauver. Cela est gratuit. Tu n'as qu'à te repentir. Tu n'as qu'à reconnaître que tu es en tort. Il y en a aussi qui ont peur de se convertir parce qu'ils se disent, si j'avoue mon péché, après les gens me regarderont avec un autre regard. La honte les empêche d'avouer, de confesser leur péché. Cette honte est soutenu par le diable. C'est ainsi que certains qui sont homosexuels ont du mal à avouer ça, parce qu'ils se disent, si j'avoue ça et que Dieu me pardonne, les hommes me regarderont étrangement. Alors, pas à cause de la honte, ils préfèrent rester dans cet état-là, le péché qui les amène à la perdition. Pourquoi? Pourquoi ne pas accepter la honte des hommes et recevoir le salut qui vient du ciel? Lorsque Paul s'est converti, celui dont on vient de lire le texte, les chrétiens ne l'ont pas tous accepté dans un premier temps. Parce que quand les gens le voyaient, ils se souvenaient de l'homme qui les amenait en prison. Ils se souvenaient de l'homme qui les faisait souffrir. C'est normal, nous sommes des humains. Il y a le souvenir qui existe. Il y a des peurs qui sont là. Mais pourquoi toi tu veux être sauvé en fonction des humains? Sois sauvé en fonction de Dieu. Et Dieu peut changer le cœur des humains, les regards des humains sur toi. Si tu es homosexuel, avoue cela. Demande pardon et Dieu te guérit. Tu auras peut-être 6 mois de honte, 3 mois de honte, mais puis 40 ans de paix et de joie. Si tu es dans la magie, je sais que beaucoup, surtout les Africains, les gens d'origine africaine, ont du mal à confesser qu'ils sont sorciers. Pourquoi? Parce que c'est tellement grave en Afrique que quand tu confesses ce genre de choses, pendant un temps, il y a la honte. Les gens te regardent mal. Ils ont peur parfois. Mais c'est normal. C'est des humains. Ils ont besoin d'être restaurés, rassurés. Alors toi, ne te laisse pas perdre à cause des humains. Le voleur à la croix a dit, Jésus, sauve-moi. Pourtant, Jésus était dans une mauvaise position. Qui peut réclamer le salut de quelqu'un qui est crucifié? C'est une honte. On te dit, mais mon cher, tu rigoles. Lui-même, il est crucifié, il va te sauver comment? Et il a préféré cette honte-là de quelques minutes, de quelques heures, mais il a choisi son salut. Quand on voit en Europe ou aux États-Unis, les gens facilement confessent qu'ils sont sorciers. Hein? Parce que ce n'est pas vu de la même manière. Les gens considèrent que c'est un péché, c'est une faille. Et puis, quelqu'un a confessé, il a pardonné. Mais il y a certains pays où c'est considéré tellement comme grave que les gens, après, ils ont du mal à confesser ça. Je me souviens d'un voleur, d'un bandit qui tuait des gens, qui faisait des grands cambriolages. Quand il a confessé tout ce qu'il faisait, il s'est repenti. Les gens ont appris ça. Tous ceux à qui il avait fait du mal, sans savoir que c'était lui qui le faisait, quand ils l'ont su, ben, il a été traqué. Mais finalement, il a été tué. Par vengeance. Mais bien aimé, il se trouve où aujourd'hui? Au ciel. Vous savez comment ce bandit-là a été sauvé? Il avait fait tellement de crimes que, vous savez, dans certains pays, il n'y a pas Robert Badinter pour faire voter des lois contre la condamnation à mort. Et dans certains pays, il y a encore des condamnations à mort et dans des conditions très très difficiles. On a pris cet homme, on l'a enchaîné sur un gros morceau, autour d'un gros morceau de béton. On a plongé dans l'eau pour qu'il meure noyé. Et pendant qu'il se noyait, il a vu devant lui le Fils de Dieu, le Sauveur des Sauveurs, qui est descendu dans l'eau, qui avait ses bras ouverts avec les trous dans les mains, le trou du salut, le trou de la victoire. Il enlève les chaînes de ce voleur, de ce bandit. Il dit, tu es sauvé. Il sort. La police ne l'a plus suivi. L'État ne l'a plus suivi puisqu'il a été plongé dans l'eau. Tout le monde a vu, c'était fini. Jésus l'a sauvé. Et il a commencé à prêcher l'évangile, à témoigner. Mais en témoignant, il a avoué toutes ses fautes. Parce qu'un vrai chrétien doit se repentir. Il doit reconnaître ses torts. Il doit les confesser. Comme ça, il met le diable dans la confusion. Il met la honte dans le camp de l'ennemi. Il a confessé cela. Je fais ceci, je fais cela. C'est mon passé. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Les gens se sont vengés. Ils l'ont tué. Mais aujourd'hui, il est à côté du Père, au ciel. Pourquoi ne pas imiter cet homme-là? Il ne faut pas regarder aux hommes. Jésus est le vrai sauveur. Jésus est le véritable sauveur. Vous savez pourquoi on sera jugé? On ne sera pas jugé tellement à cause, plutôt directement à cause de nos péchés. On sera jugé parce qu'on aurait refusé Jésus. Dieu sait que l'homme est pécheur. Il le sait. Il a donné la solution. Jésus. Et quiconque refuse cette solution est considéré comme un méchant, un mauvais, quelqu'un qui ne veut pas de la solution de Dieu. Et toutes ces personnes-là seront jugées terriblement. La Bible dit, c'est une chose dangereuse, terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, qui a accepté que son propre fils meure à la croix. Il a rendu le salut le plus facile possible. Il n'a pas compliqué le salut. Il n'a pas dit que le salut était une religion. Il n'a pas dit qu'il fallait suivre des pasteurs. Il n'a pas dit qu'il fallait suivre des systèmes. Il a dit, il faut suivre mon fils. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a donné sa vie à la croix. Le salut a été rendu facile. Mais pourquoi les gens refusent un tel salut facile? Nous allons lire dans Luc au chapitre 15. Le Seigneur qui nous montre la facilité du salut. La grandeur de son salut. Luc 15. La Bible dit dans Luc 15. Au chapitre 1er. Les péagers, c'était des gens de mauvaise vie. C'était des collecteurs d'impôts. Et en général, ils trompaient les gens en prenant beaucoup plus d'argent. Et en général, ils avaient une mauvaise vie. Et nous lisons au chapitre 15. Au verset 1er, tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue ?» Jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi. » car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. La Bible dit, il y a de la joie auprès de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Mais maintenant, imaginez un pécheur grave, un pécheur profond, un vrai de vrai, un mauvais. Mais la joie sera comment alors? Si un pécheur simple, par sa conversion, donne tant de joie à Dieu, alors, quand on est encore un pécheur pourri, on donnera encore plus de joie. Donc ta situation de pécheur d'aujourd'hui peut devenir le sujet d'une grande joie pour Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Au lieu que ce soit une joie pour Satan de te voir esclave et refusant toi-même de venir à la délivrance, sois la joie de Dieu. Qui soit dans la joie de te voir changer. Si tu es un vil pécheur, alors tu peux donner beaucoup de joie au Seigneur. Qui n'a pas rêvé de donner de la joie à Dieu? On cherche à plaire à des ministres, à plaire aux professeurs, aux parents. On cherche à plaire à nos supérieurs au travail. Mais Dieu est le roi des rois. Il a donné le moyen à tout homme de lui donner de la joie. Il suffit de se convertir. Il y a de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se donne au Seigneur. Ta situation qui te fait éloigner de Dieu, c'est parce que tu écoutes les mensonges du diable qui te dit tu es indigne, tu es mauvais. Dieu ne veut pas de toi, n'a pas besoin de toi, de telles personnes. Dieu vous a déjà condamné. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à vouloir comprendre les choses de Dieu? Il ne t'aime pas. Ça, c'est le diable. D'ailleurs, tu n'as pas le choix. Tu aimes trop le monde. Moi, je te dis que tu as le choix. Parfois, il dit, tu n'as pas le choix. Tu as signé un pacte de sang. Moi, je te dis que le sang de Jésus-Christ est le sang le plus fort. La Bible dit dans l'Apocalypse 12, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Même si tu as signé un pacte avec du sang, ça peut être effacé par le sang de l'agneau. Le diable va te dire, c'est trop tard, tu as signé le contrat. Avec l'encre magique, cette encre magique va être effacée par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de faire de la religion. C'est Dieu qui te parle. L'apôtre Paul a dit, c'est regrettable de refuser un si grand salut, de manquer un si grand salut. Il y a des gens qui ont fait les têtus, qui ont refusé le salut facile. Ils ont préféré renier Jésus. À un moment, ils avaient 15 ans, 20 ans, 26, 28, ça ne fait que monter. Et puis vient 60 ans, le cœur est déjà devenu un cœur de pierre, incapable d'aimer Dieu. Plus tu refuses Dieu, plus ton cœur s'endurcit. Viendra une étape où tu ne pourras plus faire marche arrière. C'est le moment. La Bible dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Cette brebis était perdue. On ne dit pas que cette brebis était bonne. On dit tout simplement que cette brebis, c'était la brebis de son berger, du berger. Comme elle était perdue, le berger est parti la chercher. A laissé 99 dans le désert. Voyez l'importance d'un pécheur aux yeux de Dieu. Tu es important. C'est l'image que Jésus nous montre. Que tu es important. Aujourd'hui, si toi tu te négliges, c'est toi qui te négliges, mais Dieu ne te néglige pas. Tu es important. Il veut te sauver. Et il y a une leçon encore, c'est que tu n'es pas à toi. La brebis qui était perdue, elle n'était pas à elle-même. Ce n'était pas une brebis sauvage. Elle appartenait à un maître. Tu appartiens à Dieu qui t'a créé. Tu ne peux pas user des rébellions pour dire que tu peux faire ce que tu veux. C'est de la rébellion, c'est du vol, c'est du kidnapping. Dieu t'appelle à reconnaître cela et à te laisser trouver par lui. Ne résiste pas à Dieu. Beaucoup l'ont fait. Ils l'ont regretté amèrement. Vous savez, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je me blessais régulièrement parce que j'étais turbulent. Mais même à l'âge de 8 ans, ou 6 ans, 7 ans, quand je venais de me blesser, je regardais le sang couler, je regardais la grosse plaie, j'imaginais comment on allait crier sur moi par les parents. Je me disais à moi-même, mais Eric, il y a à peine 5 minutes, tu étais tranquille à la maison, qu'est-ce qui t'a pris d'aller encore jouer dehors? Mais bien aimé, quand je vais aller au ciel, je n'aurai plus de cicatrices. Ça va s'effacer, donc c'est récupérable. Même ici sur terre, il y a des chirurgiens esthétiques qui peuvent enlever, qui peuvent guérir les plaies, enlever les cicatrices. Mais, quand tu te retrouves en enfer, il n'y a pas de retour. C'est fini. Allez simple. Quel regret. C'est pourquoi la Bible appelle ça des pleurs et des grincements de dents. Parce que tu t'imagines que c'est fini. Quand tu as raté le bac une année, tu peux encore repasser. Tu rates même 5 ans, tu peux repasser. Il y en a qui passent le bac à 60 ans. Mais quand tu as loupé le paradis, c'est fini. Et c'est là que tu vas te dire, oh, mais c'était simple. Mais depuis longtemps, tu ne savais pas que c'était simple. Tu as attendu d'être en enfer pour reconnaître que c'était simple finalement. C'est là que bien aimé, on va se rendre compte. Mais oui, mais c'était simple. Comme à l'âge de 6 ans, je me rendais compte. C'était simple. Il suffisait que je reste à la maison 5 minutes de plus et je ne me blessais pas. C'est là qu'on reconnaît, mais c'était simple. Dieu avait donné son fils. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Moi, je connais beaucoup de gens qui ont pris les femmes d'autrui ou les maris d'autrui. 11 mois, 8 mois après, ils sont déjà fatigués de ces personnes-là. Après, tu veux encore changer. Et quand tu vas te retrouver en enfer, tu te dis, oh, mais en plus, après 11 mois, j'étais déjà dégoûté. À quoi ça a servi? Bien-aimé, tu vas te dire, mais à quoi ça a servi que je vole tout le temps pour avoir des bons repas, puisque ces repas-là, je ne peux plus les manger maintenant. Réfléchissons, bien-aimés. Laissons-nous sauver par Jésus-Christ, quel que soit l'âge. Ne te bouche pas les oreilles. Il y en a peut-être qui regrettent d'avoir été là, quoi. Mais c'est Dieu qui veut te sauver, bien-aimé. Tu as fait le bon choix sans le vouloir. Nous lisons dans Luc 7. Au verset 36. Luc 7, 36. La Bible dit ceci. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme, pécheresse, c'est bien écrit, hein, pécheresse, qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Une femme prostituée dans certaines versions, une femme de mauvaise vie qui vient trouver Jésus en train de causer avec des religieux. Et quand elle entre, les gens commencent à critiquer. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Toi qui es là, qui regarde aux yeux des autres, regarde le courage de cette femme. Elle savait qu'on allait mal la regarder. Vous savez, la société d'aujourd'hui est encore beaucoup plus laxiste que la société de l'époque. À l'époque, c'était sans pitié. On détestait les prostituées. Et là, cette femme savait qu'on allait se moquer d'elle. On allait peut-être la chasser. Mais elle sentait en elle que Jésus n'allait pas la chasser. Alors elle s'est dit, je vais profiter du fait que Jésus soit là. Alors même si tu sais que les humains, après tes confessions, vont mal te regarder, ce n'est pas eux qui vont te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. Même si après, tu sais que tu ne seras plus redouté par tes amis, tu ne seras plus respecté par ton entourage parce que tu es devenu un enfant de Dieu, mais ce ne sont pas ces gens-là qui vont te sauver. Le ciel est obtenu par Jésus. Cette femme a eu le courage. Et beaucoup de gens ici disent, je suis courageux. Parfois, ils tapent les autres. Mais quand il faut confesser, c'est des poules mouillées. Confesse, sois courageux. Il y en a qui ont même, des muscles. Mais quand il faut confesser, c'est la fuite. Il y en a qui se dandinent avec des hauts talons. Mais quand il faut se confesser, on ne voit plus les hauts talons, bien aimé. Cette femme a eu le courage de venir s'humilier. C'est ça le vrai courage. Le vrai courage d'affronter les regards qui allaient dire, voilà, la mauvaise, voilà. Et s'est dit, moi aujourd'hui c'est le ciel. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui que j'ai le courage. J'y vais. Je n'attends pas que les hommes m'autorisent. Je sais que Dieu veut me sauver. Elle a eu le courage d'y aller, d'affronter les regards. Et Jésus a dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Il y en a même qui vont dire, mais oui, mais elle n'a pas confessé là. Elle a confessé. Elle est venue pleurer. Et tout le monde la connaissait. Tout le monde savait qui elle était. Et donc en venant avec tristesse, en pleurant, elle reconnaissait qu'elle avait tort dans sa vie de péché. Et Jésus-Christ lui a pardonné. Si Jésus a pardonné à cette femme, il peut te pardonner aussi. C'est ça ma prédication. Il peut te pardonner. Il peut pardonner aux plus vils des pécheurs. N'insiste pas dans ton chemin. Viens à Jésus. N'insiste pas. Ne te dis pas que tu as encore le temps. Luc 19, nous allons lire. La Bible dit ceci au chapitre, au verset premier. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, puisque Zachée s'est retrouvé devant le Fils de Dieu. Il a dit, non, j'ai perdu mon temps à voler de l'argent. Ça m'a donné quoi? J'ai perdu mon temps à escroquer les gens. Qu'est-ce que ça m'a donné? Aujourd'hui, je vois la vie. C'est lui la véritable vie. J'ai perdu mon temps et je n'ai rien obtenu. Bien-aimé, vous vous imaginez depuis combien de temps on mange? Ça fait 30 ans, 40 ans que tu manges. Qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que les nourritures que tu as mangées se sont entassées quelque part pour que tu... Non. La véritable vie, c'est Dieu. Ça fait combien de temps que tu t'habilles? Est-ce que ça t'a changé? La vie vient du Seigneur. Cet homme était un mauvais. Mais Jésus est venu pour les mauvais. Il est venu sauver les plus grands pécheurs. Ne t'imagine pas que au jugement dernier, tu diras au Seigneur, « Mais j'étais mauvais. » Mais il te dira Luc 19, Luc 15, Luc 7. Il s'agissait de qui là-bas? Ne t'imagine pas dire au Seigneur, ma situation était désespérée. Il te dira Luc 23. Nous allons lire Luc 23. Luc 23, à partir du verset 34, la Bible dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus pardonne à ceux qui le sont en train de l'injurier, l'insulter et le crucifier. Il dit pardonne. Si Jésus a pardonné les gens qui le crucifient, qui le crucifiaient, mais toi tu ne l'as même pas crucifié physiquement, mais tu lui fais beaucoup plus de mal parce que tu refuses son salut. Il est triste de te voir rater le salut. Il est triste de te voir te laisser dominer par les choses de ce monde. C'est ça qui le rend triste. Mais il veut te pardonner. Verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présentèrent du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui, « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. La situation de cet homme était désespérée. Il a fait de mauvaises choses dans la vie et il s'est retrouvé condamné à mort et il s'est retrouvé crucifié. Mais heureusement pour lui, il a été crucifié à côté de Jésus. Il s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu dois décider. Vous savez, dans la vie, il y a un moment où il faut accepter d'être fatigué. Il ne faut pas être fort à tout moment. Il y a un moment où tu dois regarder les choses, dire, je suis fatigué de ces choses-là. Il y avait deux voleurs à la croix. Il y a un qui n'était pas fatigué d'être mauvais. Donc jusqu'à la croix, il a continué, Jésus, ah, si tu es le Christ, sauve-toi. Et il a commencé à continuer à injurier. Mais il y a un qui s'est dit, mais non, là, j'accepte d'être fatigué. Je suis fatigué d'être mauvais. Pour une fois, je vais essayer d'être bon. Je suis fatigué. Il y a un moment, il faut se laisser fatiguer. Tu regardes les choses de la chair, tu dis non. Je suis fatigué de tout le temps me mettre en colère. Ça me met des tensions. Ma tension augmente. Je suis fatigué. Je suis fatigué de tout le temps défendre, créer des discussions sur la soumission de la femme. Il y en a, quand on cite le mot femme, soyez. Donc, on n'a même pas encore dit soumise, il y a le cœur qui bat, boum! À un moment, il faut se dire, bon, non, je suis fatigué de résister. Je vais céder seulement, je vais être soumise. À un moment, il faut céder, il faut se laisser fatiguer. À un moment, il faut céder. La Bible dit, l'orgueilleux, Dieu lui résistera. Le fort, Dieu lui résistera. À un moment, il faut être faible. Dis non, je suis fatigué d'être esclave de telle chose. Je suis fatigué. Et ce voleur était fatigué d'être mauvais. Et le jour où il était fatigué, Dieu était là à côté. Il y a un évangéliste qui dit toujours, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tant que quelqu'un n'est pas encore fatigué, il ne peut pas venir à Jésus. Tant que quelqu'un croit que sa beauté peut lui rapporter encore certains avantages, il cherchera toujours à l'utiliser. Tant que quelqu'un croit que sa force de parler, son éloquence, va toujours être quelque chose qui va l'aider, qui va lui apporter des avantages, il utilisera toujours ça. Même si on lui dit, non, humilie-toi, laisse Jésus t'utiliser. Non. Tant que quelqu'un dans sa tête, il se dit que son intelligence va lui rapporter. Et il continuera toujours. Le seul moyen de venir à Jésus, c'est de s'asseoir et de dire, je suis fatigué de telle voix. Je suis fatigué. Mon intelligence m'a fatigué. Maintenant, je reviens à Dieu. Ma beauté m'a fatigué. À un moment dans la vie, il faut se fatiguer. Mon talent m'a fatigué. Maintenant, je veux venir à Dieu. Et cet homme à la croix, il s'est dit non. Là, trop c'est trop. Je suis maintenant à la croix. Je ne peux plus continuer. J'arrête là. J'arrête. Jésus, sauve-moi. Voilà. Bien-aimé. Pourquoi on résiste à Dieu? Parce qu'on a l'impression qu'on va rater des choses. Mais qu'est-ce que tu vas rater? Tu vas rater des choses qui vont te satisfaire un mois, un jour, deux jours, trois jours, une année, mais qui vont après causer ta perte. Il y en a qui disent, Mais si je me convertis, je vais arrêter de fumer la cigarette. Mais que te fait la cigarette? C'est un besoin inventé. Dites à un bébé, à un enfant de 5 ans, de 6 ans, parlez-lui de la cigarette, il dira, mais c'est quoi? Moi, j'ai besoin de mon lait, de mes biscottes, de mes pâtes à la bolognaise. Il pense même pas à la cigarette. C'est un besoin inventé et qui est rendu besoin normal, alors que ça n'est pas un. Mais à un moment dans la vie, il faut se fatiguer de ça, dire non, je suis fatigué, la cigarette me détruit. Ça me détruit. En plus, je suis esclave d'un morceau de papier et de feuilles séchées. À un moment, il faut se fatiguer, dire non, c'est pas logique. À un moment, il faut se fatiguer de la séduction, vouloir toujours séduire les hommes. À un moment, il faut se fatiguer et dire, ben non. J'ai marqué 1000 buts comme Pelé, maintenant ça suffit, quoi. Je n'ai plus... À un moment, il faut s'arrêter et dire, non, ça me sert à quoi? De faire tourner le regard vers moi, ça sert à quoi? De faire pécher les autres. À un moment, il faut se fatiguer des choses. À un moment, il faut se fatiguer de lutter pour... Dans la rébellion, tout le temps, il faut se dire non. Ça me crée des problèmes. Je veux la paix. À un moment, il faut se fatiguer de l'argent. Il faut se fatiguer. Il y en a qui sont tellement... accrochés à l'argent. Que même quand ils ont des fruits sur la table, chaque nuit avant de dormir, ils comptent le nombre de fruits qu'il y a, bien aimé. Tellement l'argent est là. Accro. Bien aimé. Poursuivre des centimes à gauche, à droite. Refuser les parkings payants, chercher toujours un endroit où on peut... Économiser, non. Donc, à un moment, il faut dire, non, je suis fatigué, j'ai fait des tours. Alors qu'il y a des parkings payants, là, je vais directement seulement. Là, tu vas tourner, l'essence finie, déjà, c'est le prix de... Mais tout ça parce que tu veux économiser, non. À un moment, il faut dire, non, je suis fatigué de garder cet argent-là. Je vais dépenser pour vivre quand même. Bien-aimé, à un moment dans la vie, il faut se fatiguer. Tu dis, non, je suis fatigué. De mentir. Il y en a qui mentent sans réfléchir. Ça, ça sort tout seul. Bien-aimé, non. Toi-même, tu dois te regarder. Oh, mais c'est moi qui ai parlé. C'est toi qui as parlé. Donc, il y a un esprit qu'il faut qu'on chasse. Au nom de Jésus-Christ. Et surtout, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui mentent. Mais non. À un moment, il faut se dire, non, ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués des voitures, toujours en train de calculer quelle voiture je vais avoir, quelle voiture, auto plus, auto journal. Mais non, à un moment, il faut se dire, ben non. Vous savez, j'ai dit à la bolle, ma voiture, elle est vieille, mais quand je suis en bonne communion avec le Seigneur, le bruit, il est merveilleux. Donc je dis, là, Seigneur, ça, c'est la voiture de ma vie. Le bruit, il est super, malgré l'âge de la voiture. Quand tu es en bonne communion avec Dieu, tout a un bon goût. Je dis, je n'ai même pas envie de changer. Parce que le bruit est extraordinaire. Mais quand un frère est entré, il a dit, pasteur, il y a des pannes, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Mais moi, je n'entendais pas ça parce que j'étais ailleurs. Bien-aimé, si tu es en bonne communion, tout va avoir un bon goût. Et c'est Dieu qui va commencer à dire, voilà, c'est moi qui te change la veste. Voilà, c'est moi qui te change. Voilà, c'est moi. Parce qu'il se soucie de toi. Au lieu que toi, tu cours vers ces choses-là. Bien-aimé. Dans la vie, à un moment, il faut se fatiguer. Dire, j'ai trop marché, comme on a chanté. J'ai trop couru, je n'ai pas la paix. Je n'ai rien gagné. J'ai eu des plaisirs, mais ça a disparu. Je me retrouve encore avec les mêmes envies, les mêmes sensations. Non. Il faut que je prenne la voie de la satisfaction. La voie de la satisfaction, c'est Jésus. Il a dit, quiconque croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein. Il n'aura plus jamais soif, il n'aura plus jamais faim. C'est la voie de la satisfaction, de la satiété, c'est Jésus-Christ. Alors que l'autre voie, c'est la voie de l'insatisfaction, ça ne finit pas. On regrette, on dit, mais si je vais être dans le Seigneur, je vais manquer telle chose, je vais manquer. Mais ces choses-là, tu ne seras jamais satisfait dans ces choses-là. Ça demandera toujours plus et plus et plus. Bien-aimés, revenons à Dieu. Dieu te dit qu'il peut sauver le plus grand des pécheurs. Et tu n'es certainement pas le plus grand. Mais aujourd'hui, prends la décision d'accepter le schéma de Dieu. Le schéma de Dieu, c'est sa grâce. C'est la nouvelle création qui va se former dans ta vie. Tu te dis, mais qui vaincra mon péché? Il y a quelqu'un qui s'est posé la même question dans Romains 7. Il a dit, qui va vaincre mon péché? Nous lisons ça pour clôturer, Romains 7. À partir du verset 15. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Quelqu'un a crié, il a dit, mais non, il y a trop le péché en moi. Mais qui me délivrera? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Dieu va mettre une nouvelle loi en toi qui va te libérer du péché et de la mort. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Et tu seras définitivement délivré. Voilà ce qu'il te propose aujourd'hui. Toi qui doutes de toi-même, fais confiance en Dieu. Il te délivrera de Satan. Il te délivrera de tous tes contrats. Il te délivrera de tes péchés par la nouvelle création. Veux-tu la nouvelle création? C'est ton jour aujourd'hui. Veux-tu la délivrance du péché? C'est ton jour aujourd'hui. La grâce est là. La grâce est disponible. Nous allons prier. Nous allons chanter tout à l'heure un chant en anglais qui dit que je sais que Jésus-Christ peut sauver le plus grand des pécheurs. Donc si tu ne comprends pas, c'est ça le sens de ce chant-là. Merci Seigneur de nous aider à céder à toi Seigneur. Merci Seigneur de nous aider à confesser notre péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux sauver le plus vil des pécheurs. Tu dis dans ta parole que tu ne veux pas la mort du méchant, Seigneur. Tu veux que le méchant se repente et se détourne de ses mauvaises voies, Seigneur. Merci Seigneur de convaincre avec amour, mais dans la vérité, tous ceux qui se sentent, Seigneur, perdus, qui puissent se repentir pour être sauvés aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Alors, je vais t'appeler, toi qui es convaincu que c'est ton jour. C'est une question de cœur. Souviens-toi de cette femme qui est venue confesser auprès de Jésus en pleurant. Jésus n'avait pas fait de belles prédications, mais Jésus pouvait seulement sauver. Aujourd'hui, la prédication n'a pas été peut-être à la hauteur, mais il y a un Dieu qui veut te sauver. Son fils Jésus est prêt à te sauver. Saisis cette occasion. Et je t'appelle à passer devant pour confesser ton péché devant lui. Même si tu es déjà connu ici comme un régulier de l'église, mais que tu savais qu'en toi-même, tu n'étais pas encore à 100%, c'est le moment pour toi de venir pour recevoir ton salut. Affronte comme cette femme a affronté les regards des humains. Mais elle a préféré le choix du salut. J'invite encore les bien-aimés à passer. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vile sinner clean. Yes, I know. Le sang de Jésus peut rendre le plus grand des pécheurs purs. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, d'agir aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu, Seigneur, ce que nous faisons. C'est la réalité, Seigneur. And I know, yes, I know. Jesus' blood can make the vile sinner clean. And I know, yes, I know. Jesus' blood can make the vile sinner clean. And I know, yes, I know, Jesus' blood can make the vile sinner clean. And I know,